Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, vous nous présentez la suite des réactions enregistrées dans diverses capitales à nos élections présidentielles. Comment est commentée la victoire d'Emmanuel Macron ?
L'élection d'un inconnu de 39 ans à la tête de la République française frappe de stupeur la planète Internet. On semble découvrir que la France n'est pas seulement le pays des 1200 fromages et des grands vins, mais aussi une start-up nation. Notre pays, que tous les French bashers décrivaient encore hier comme irrémédiablement bloqué, incapable de retrouver une place dans un 21e siècle auquel il n'aurait rien compris, redevient soudain à la mode. Après la cool Britannia de l'époque Blair, est-ce au tour de la France de devenir cool à son tour? Pour tenter de trier parmi ces réactions, je vais me limiter ce matin au site Project Syndicate auquel collaborent des leaders d'opinion du monde entier. Le plus fameux des intellectuels publics néerlandais, Ian Buruma, se demande si nous assistons à la fin du clivage structurant gauche-droite. Après tout, souligne-t-il, ce sont justement les Français qui ont inventé, au début de leur fameuse révolution, cette manière de se compter entre partisans et adversaires du veto royal. Or, les deux finalistes de l'élection présidentielle française prétendent, l'un et l'autre, renvoyer le vieux clivage aux poubelles de l'histoire. Emmanuel Macron entend rassembler les progressistes, les partisans de la réforme, de droite et de gauche. Marine Le Pen prétend parler au nom du peuple, des petites gens de France, et son programme emprunte nombre d'éléments à la gauche radicale. Est-ce à dire qu'il faut abandonner le critère de différenciation droite-gauche? Ce serait oublier, estime Buruma, qu'il a été solidifié en France par l'affaire Dreyfus. Deux conceptions à cette époque se sont opposées sur ce qui était décisif, la définition même de la nationalité. D'un côté, le sol et le sang, de l'autre, la citoyenneté politique. Or, le nouveau populisme identitaire, celui des Le Pen comme celui de Trump, recycle à sa manière le fond de l'idéologie anti-Dreyfusard. En se réclamant du vrai peuple contre les élites mondialisées, il renoue avec les thèmes de la patrie trahie par les cosmopolites et livrée au métèque. Cela pose à la gauche social-démocrate un problème de survie, estime Buruma, car les plus défavorisés se tournent dorénavant vers cette nouvelle droite. Si la gauche, dans toutes les grandes démocraties, a perdu progressivement les classes populaires, c'est qu'elle est devenue le parti des diplômés du supérieur. Elle a favorisé les grandes entreprises et le multiculturalisme. Il ne faut pas enterrer trop vite le clivage droite-gauche, conclut Buruma, et d'avertir. Macron est plein de bonnes intentions, mais si sa politique échoue, les nouveaux anti-Dreyfusards viendront prendre leur revanche.
La victoire d'Emmanuel Macron, Brice Couturier, est celle d'un euro-enthousiaste. Ça aussi, ça a dû étonner.
Et en effet, et la plupart des autres réactions postées sur toujours Project Syndicate tournent autour de la relance de l'Union européenne où Macron est attendu. Ainsi, Harold James, professeur d'histoire des relations internationales à Princeton, se réjouit que le vainqueur de la présidentielle ait été le candidat le plus favorable à l'idéal européen. Mais c'est pour ajouter aussitôt que cet idéal, la majorité des électeurs français ne le partagent plus. L'euroscepticisme, voire l'europhobie, ont alimenté le vote populiste. Tant Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon ont développé des thématiques anti-allemandes dont les fondateurs du projet européen se seraient bien gardés, alors que la France sortait à l'époque d'une guerre avec l'Allemagne. Plus grave encore, une partie des peuples a le sentiment que les élites nationales sont manipulées par Bruxelles. Les pays du sud de l'Europe, auxquels la France ressemble de plus en plus, considèrent souvent la monnaie unique comme une camisole de force et ils imaginent que l'abandonner leur rendrait des marges de manœuvre. Mais le paradoxe de la situation, c'est que les Allemands et les pays du Nord se sentent eux-mêmes piégés. Et Harold James, toujours lui, d'invoquer alors la théorie du maître et de l'esclave de Hegel et d'attribuer à notre jeune et nouveau président la tâche du saut dialectique, Aufhebung, qui permettrait de sortir de cette fâcheuse situation. En termes moins philosophiques, ça consisterait tout simplement pour la France à s'inspirer enfin du modèle allemand, l'économie sociale de marché, afin de créer enfin des emplois marchands, pour l'Allemagne à assumer enfin ses responsabilités en matière de défense en se mettant enfin à l'unisson de l'effort français en ce domaine. Notez que si certains prônent encore et toujours le modèle allemand, on vient de le voir sur le même site, Philippe Aguillon, professeur au Collège de France et l'un de ces économistes qui, dit-on, chuchote aux oreilles d'Emmanuel Macron, vante lui le modèle scandinave. Il combinerait à ses yeux deux idéaux, celui d'une très grande flexibilité du travail et d'un encouragement à l'innovation, tous deux propices à la croissance, puis plus un système de protection sociale universelle qui suit l'individu tout au long de sa trajectoire de vie et lui permet ainsi de multiplier les essais personnels en se sentant protégé par un filet de sécurité solide. La Suède a plus de 4% de taux de croissance, un taux de chômage de 6%. La France, on le sait, une croissance inférieure à 2%, un chômage égal à plus de 10%. Et ben Emmanuel Macron ne serait pas un intégriste du marché, rassure Aguillon, mais un adepte de la Scandi solution.